qu'on a repéré, c'est la réflexion sur les situations différentes que représente une adhésion au CNEF ou à la FPF. J'ai l'impression que parfois dans nos échanges, on aborde la question par rapport au CNEF ou à la FPF comme s'il s'agissait d'engagements qui étaient exactement du même type. Il y a un certain nombre, pensons-nous, de différences, ou peut-être qu'il n'y en a pas, où sont-elles? Donc c'est cette première question, Étienne, quelle situation différente représente une adhésion au CNEF et une adhésion à la FPF?
Alors, je vais essayer de vous montrer sur l'écran, essayer d'objectiver la situation, mais j'aimerais dire tout de suite que nous sommes comme dans la situation des cercles concentriques de ce matin, dans des cercles qui se recoupent partiellement. Alors, la première différence, évidemment, c'est que la FPF est bien installée. Elle a été créée en 1905 et elle a derrière elle une longue expérience, alors que le CNEF est tout récent. Si vous vous penchez sur l'objet des statuts, vous savez que dans une association, c'est l'objet qui dit beaucoup sur le projet. En réalité, les choses sont relativement proches. Vous avez l'extrait des statuts là sous les yeux. Du côté de la FPF, annoncer immédiatement la volonté de rendre dans la société un témoignage commun au Christ vivant. Alors qu'il y a un souci d'identité plus fort peut-être qui est affiché tout de suite au CNEF, qui est de manifester l'identité et l'unité du protestantisme évangélique français et de renforcer son témoignage. Après, les questions de représentation auprès des pouvoirs publics, c'est le souci des deux institutions. Le fait de veiller au respect des libertés religieuses, le CNEF là aussi, mais n'a pas du tout la même capacité à se faire entendre. Ce qui va changer, c'est probablement le fait que l'AFPF est regroupée sur une base plus large que le CNEF et a le souci d'un dialogue qui s'étend au-delà des seules frontières protestantes. Alors que du côté du CNEF, vous trouverez une certaine frilosité à dépasser le cadre même du protestantisme évangélique. Donc vous avez là, je dirais, deux façons d'aborder les choses qui sont quand même singulièrement différentes. Deuxième chose qui va changer, c'est que la FPF, elle, soutient un certain nombre de services. Elle a, sauf erreur de ma part, 8 services avec des responsables à leur tête qui vont permettre aux protestants qui sont membres de la Fédération protestante d'intervenir dans les prisons, dans les hôpitaux, dans les œuvres sociales, à la télévision, à la radio. Évidemment, le CNEF n'a pas ces moyens-là. Et, j'ajoute, le CNEF n'a pas la prétention de faire concurrence à la Fédération protestante sur ces plans-là. Nous travaillons en étroite collaboration sur les questions d'aumônerie des prisons, d'hôpitaux. Pour l'instant, la question de l'aumônerie aux armées est un peu différente. De toute façon, l'armée, vous savez, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas si je dois dire ça à des Mennonites. Voilà. Et la télévision et la radio, si vous suivez un tout petit peu l'actualité, de toute façon on ne sait pas combien de temps ça va durer, puisque récemment le culte à la radio a été déprogrammé et mis à 7h30 le matin, puis ils viennent de le remettre à 8h30. Mais pour avoir été président de la commission radio à la Fédération protestante pendant plusieurs années, c'est un jeu de cache-cache avec Radio France qui voudrait bien se débarrasser de cet encombrant service public qui l'oblige à mettre les religieux dans sa grille de programme. On verra bien. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième, qui je pense est le plus marquant, et qui va expliquer une différence de fonctionnement, c'est que la façon dont l'unité des membres du CNEF et de la FPF est manifestée et ne se fait pas de la même manière. Et c'est un peu paradoxal. Du côté de la Fédération protestante, l'unité est manifestée par la signature d'une charte. Or, cette charte a pour mesure emblématique l'idée de l'accueil mutuel à la scène. C'est-à-dire que si vous êtes union membre de la fédération protestante et qu'une personne d'une autre union membre de la fédération protestante vient dans votre église, vous vous engagez à le laisser prendre la scène avec vous. Vous ne trouvez rien d'équivalent du côté du CNEF. Nous ne nous sommes pas préoccupés de l'accueil mutuel à la scène. Vous savez d'ailleurs que les assemblées de Dieu, qui sont des membres nombreux du CNEF, sont parfois restrictifs dans leur accueil à la scène. Ça peut être parfois des expériences un petit peu désagréables quand vous allez dans certaines de leurs communautés. Du côté du CNEF, l'adhésion, l'unité se manifeste à travers la signature d'une déclaration de foi. Ce qui n'existe pas du côté de la FPF, parce que la base théologique étant beaucoup plus large, il est difficile d'avoir une confession de foi commune. On se reconnaît dans la charte dans des valeurs, et des valeurs de la réforme, qui sont la centralité de l'écriture, l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ, des choses fortes, mais pas à travers une déclaration de foi. Et au fond, à mon avis, ça recoupe les grands débats qui ont existé au XIXe siècle, qui étaient savoir une partie du protestantisme qui voulait revenir à la pratique d'une confession de foi bien marquée, et celle qui a toujours dit « mais c'est pas l'essentiel ». Et on se retrouve un petit peu dans des différences d'approche ici. Ce qui fait qu'il ne faut pas rentrer à la FPF avec les mêmes attentes qu'au CNEF. Ça, c'est évident. Il y a des choses qu'on peut faire au CNEF, qu'on ne peut pas faire à la FPF, et inversement. Si on veut implanter des églises, jusqu'à un certain point, au CNEF, on va pouvoir faire un travail de concertation. Il est évident que si on va du côté FPF et qu'on parle évangélisation, derrière le mot évangélisation, la diversité des acteurs autour de la table n'a pas la même vision du mot évangélisation que celle classiquement admise d'une proclamation publique de la parole de Dieu, etc. Donc, on ne va pas pouvoir forcément faire tout à fait les mêmes choses. Je rappelle que je suis... vous oubliez que je suis président du CNEF, je suis dans les deux. Et que je reconnais la pertinence de chacune des postures, si vous voulez. Quant à la diversité, à mon avis, le respect de la diversité s'affirme de façon identique des deux côtés. Nous avons des principes déontologiques du côté du CNEF. Je vous en ai lu un extrait ce matin. Ils se veulent particulièrement attentifs au développement entre les membres de relations de qualité, respectueuses de l'identité de chacun, tout en conservant leur liberté de ne pas souscrire au particularisme de chacun. Ils sont en accord sur l'essentiel de la foi, tel qu'il est exprimé dans la déclaration de foi. Donc nous reconnaissons au CNEF qu'il y a des particularismes entre nous, Ce n'est pas parce qu'il y a eu réconciliation entre les deux grandes familles évangéliques que sont en gros les pentecôtistes d'un côté et les non-pentecôtistes de l'autre qu'on a abandonné toutes nos discussions et toutes nos divergences. On s'efforce simplement de ne pas faire de nos particularismes des points de bataille et je dirais même de prosélytisme. On connaît très bien ça à la Fédération Baptiste parce qu'on a les deux pour le même prix. Et c'est parfois compliqué. Dans notre histoire, ça a été très compliqué, parce que ceux qui ont découvert le baptême dans le Saint-Esprit ont pensé que tous les autres, ils avaient un train de retard au moins. Et donc, il y avait des jugements qui fusaient, il a fallu recadrer un peu les choses. Du côté de la Fédération protestante, vous le voyez bien, chaque église, union d'églises et institutions souscrivant à cette charte, conserve les formulations de la foi, les expressions cultuelles, les formes de présence dans la société et les priorités du témoignage auquel elle est attachée. Et pour avoir été le représentant baptiste au sein de la Fédération protestante pendant 10 ans, je peux affirmer que oui, la Fédération baptiste a pu être, avec son identité, au sein de la Fédération protestante, sans être obligée de passer sous les fourches codines de telle ou telle façon de faire ou de voir. Alors, une chose, juste un point que je souligne rapidement, mais dont il ne faut pas tirer trop vite des conclusions, c'est que les moyens que se donnent la FPF et le CNEF ne sont pas de même nature. C'est-à-dire que le CNEF est tout nouveau, il a peu de contraintes, donc sa cotisation est relativement légère. il faut s'entendre par léger. 2 euros par personne fréquentant régulièrement le culte. C'est-à-dire, vous savez, on a toujours le problème de la reconnaissance du membre. Mais il n'y a pas qu'entre eux, il n'y a pas qu'entre évangéliques et luthéro-réformés, hein, même entre évangéliques. Entre nous, définir le membre d'église n'est pas une science exacte. Déjà, ça dépend du pasteur. Hein. Il y en a qui ont des idées larges et d'autres moins. Il y en a qui savent compter et d'autres moins. Et puis, il y a la question de la façon dont on détermine qui est membre. Mon collègue des Assemblées de Dieu avait une façon assez curieuse de faire. C'est-à-dire, quand il estimait quelqu'un venait 4 fois chez lui, il était membre. J'ai dit, tu ne demandes pas son avis ? Bon, non, s'il est baptisé, c'est bon. Alors là, pour moi, baptiste où tout doit se voter, voilà, j'étais un peu surpris. Mais vous voyez qu'on n'a pas la même manière. Donc, on a dit, on va prendre les personnes qui fréquentent régulièrement le culte. Puis c'est un système déclaratif. C'est-à-dire que chacun dit ce qu'il estime. Hein. Et du côté de la Fédération protestante, alors c'est plus compliqué, mais pour vous donner une idée, la Fédération baptiste, donc 6 000 membres, devrait donner 12 000 euros d'un côté et 30 000 de l'autre. Juste pour vous donner une idée des proportions. Mais en face, vous n'avez pas les mêmes services. C'est juste pour ne pas vous dire « Oh, ça coûte cher d'aller à la Fédération protestante ». Ce n'est pas la question. C'est qu'il n'y a pas les mêmes compétences mises à disposition ensuite. Alors, le fonctionnement, il est quand même relativement proche. Vous avez, du côté de la Fédération protestante, une assemblée générale qui est composée, pour faire simple, un tiers des églises protestantes d'Alsace-Lorraine, sous-entendu luthérienne et réformée, un tiers de l'église protestante unie, c'est l'église réformée et luthérienne de la France de l'intérieur, les églises, et puis un tiers des autres églises, qui sont pour 90%, pas 100%, mais 90% des évangéliques. Et vous avez 25 délégués des œuvres, parce que dans les deux structures, vous avez une majorité d'union d'église et un quart environ qui sont faits d'œuvres. Puis vous avez un conseil qui est composé de 20 à 25 membres. Ce qui va changer entre la FPF et le CNEF, c'est que le président de la Fédération protestante est rémunéré. Du coup, il a une visibilité infiniment plus grande que le président du CNEF. Moi, je fais ça de façon bénévole, mais c'est aussi voulu dans le CNEF. C'est-à-dire que, par exemple, je ne me présente presque jamais dans les ministères ou dans les rencontres officielles seul. Nous y allons toujours à 2 ou 3. Nous voulons privilégier une représentation collégiale. La Fédération protestante a désigné, et ça facilite aussi les choses, hein, d'avoir une sorte de tête bien reconnue. Alors, j'attire votre attention simplement du côté du CNEF sur le fait que nous avons mis en place un système qui évite que les assemblées de Dieu écrasent tout. Je dis ouvertement parce qu'ils le savent et que c'est négocié avec eux. C'est-à-dire que vous savez que les assemblées de Dieu, c'est 400 lieux de culte. Ça fait exactement 600 lieux de culte, mais 400 églises majeures, si vous voulez, et 400 pasteurs. À eux seuls, avec un système de délégation représentative proportionnelle, ils faisaient l'appui et le beau temps. Point. Dans ce système, si vous observez bien, les délégués, en réalité, plus on avance dans le nombre, moins il y a de délégués proportionnellement. Ce qui fait que sur une assemblée de 80 membres, les assemblées de Dieu ont 8 voix. Ce qui, évidemment, ne représente de loin pas la majorité. Quant au comité représentatif, il est simple, nous avons découpé le CNEF en 5 pôles que vous avez ici, les évangéliques de la FPF, les ADD, le réseau FEF, les pentecôtistes charismatiques, les œuvres. Et chacun a 3 représentants dans ce qu'on appelle le comité représentatif, qui est le conseil. Mais il y a un plus un ici, il se trouve que c'est moi, pour cette deuxième mandature, c'est le représentant des écoles de théologie. La volonté chez le CNEF de mettre l'accent, à cause de notre confession de foi commune, sur l'aspect théologique. Et du coup, vous avez un comité théologique au CNEF, ce qui est un peu compliqué à la FPF, à vrai dire, à cause de la diversité des théologies. Voilà si je fais rapidement le tour des proximités, des différences. Je répète, le CNEF n'a pas la prétention de faire ce que le FPF fait déjà. Et là où nous pouvons, nous travaillons de concert.
Je pense qu'il peut... Merci Étienne pour cette introduction dans le thème de l'après-midi. Et on voit bien que la question posée n'est pas simple. Et après t'avoir entendu ce matin, on voit bien que cette question de relation, de communion, de cohabitation n'est pas quelque chose qu'on peut évacuer vite fait, que c'est... Ça marche pas. Okay. Il est tout chaud. Et donc, ces relations représentent d'un côté une chance, mais de l'autre côté aussi un défi. Mmh. Et donc, comme on te l'a fait savoir déjà en avance, notre hypothèse de travail qui a été émise par le bureau avec la commission Foyer-Vie, c'est l'hypothèse de travail, c'est une double appartenance. Mmh. Donc, d'autant plus la complexité de la question. Et donc, cette deuxième question qu'on aimerait te poser, c'est quels sont les défis et les chances possibles d'une telle double appartenance, telle que tu peux la vivre dans ton union d'église, et donc tu as aussi déjà parlé ce matin.
Le premier défi que je vois, c'est un défi, je ne sais pas comment le caractériser, plus vous voulez vous insérer dans des relations larges, plus il faut que vous soyez bien dans vos baskets. C'est un vrai défi. Et à certains égards, plus vous vous impliquez dans des relations larges, plus vous apprenez. Vous progressez dans ce domaine. Je rends ce témoignage que c'est dans des dialogues, y compris avec les catholiques, que j'ai appris à peaufiner mon identité baptiste. C'est extrêmement formateur que de se retrouver confronté à des théologies différentes et de dialoguer avec elles. Donc ça, c'est ce premier défi. N'y allez pas... Que ce soit au CNEF, à la FPF ou n'importe où, n'y allez pas simplement pour vous dire, on va leur montrer, ils vont voir ce qu'ils vont voir. N'y allez pas en vous disant non plus, oh là là, on est tellement minoritaire qu'on n'a rien à apporter. Allez-y en étant vous-même. À mon avis, vous serez d'autant mieux accueillis que finalement, vous avez un poids supérieur à votre nombre de personnes. L'anabaptisme à irriguer l'histoire protestante de telle sorte qu'il est connu au-delà même de sa représentation sociologique. Sur des sujets dans lesquels vous êtes un peu des précurseurs ou des avant-gardistes, je veux parler de tout le ministère autour de la réconciliation, par exemple, de vos positions sur le pacifisme, je ne sais pas si vous diriez ça comme ça. Le monde évangélique aussi par rapport à toute une avancée dans l'aspect individuel de la profession de foi et de séparation de l'Église et de l'État. Il y a toutes sortes de choses dans lesquelles vous êtes attendu de façon, avec un a priori sympathique, des deux côtés. Il m'est souvent arrivé d'entendre à la Fédération protestante comme à OCNEF, tiens, les Mennonites ne sont pas là. J'étais persuadé qu'ils étaient là. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de gros problèmes pour que de l'autre côté, on vous accueille. Après, c'est vos affaires, hein, de savoir si vous avez envie d'y aller. Il y a un deuxième défi, qui est un défi humain. Pour avoir appartenu... en étant secrétaire général à une fédération qui est de taille importante, mais quand même modeste par rapport, par exemple, aux églises luthériennes réformées, arriver à trouver des personnes qui peuvent s'impliquer dans les structures, c'est complexe. Et plus on est une petite union, plus la sollicitation, c'est un peu comme dans une petite église, hein, vous le savez, plus l'église est petite, plus les 10 qui sont au boulot ont le boulot. Parce qu'il n'y a personne d'autre, donc il faut le faire. Donc là, il y a un défi. Ben, il se relève, hein. Il se relève en acceptant de ne pas tout faire. Mais il y a un défi. Après, il y a un défi finalement financier. Ça, c'est un secret pour personne. Aujourd'hui, la disposition qui a été prise au sein du CNEF, c'est que ceux qui ont la double appartenance ne payent que la moitié de la cotisation au CNEF. Ce qui a été une mesure pour s'assurer que ceux qui étaient à la FPF et qui voulaient rejoindre le CNEF puissent le faire. Et je pense qu'enfin, il y a un défi dans la capacité d'adaptation à des positions diverses et parfois contradictoires. La double appartenance fait que vous allez vous retrouver dans des situations où parfois vous avez des gens qui disent blanc et d'autres qui disent gris, parfois d'autres qui... Enfin, on n'est pas sur les mêmes registres. Mais ceci étant, ce n'est pas la double appartenance qui fait le problème. Moi, j'étais dans la Fédération Baptiste, et on va en parler un peu plus tard, il m'est arrivé de me retrouver devant des prises de position de la Fédération Protestante qui me faisaient m'étrangler. Et il fallait gérer ça. Hein? Donc, ce n'est pas la double appartenance en soi. C'est le fait de collaborer avec des gens dont la théologie est sensiblement différente. Les chances que vous avez, je pense, et que j'ai déjà évoquées, au fond, c'est d'être attendu, d'avoir quelque chose à apporter. Et d'une certaine manière, du côté de la Fédération protestante, de peser dans le débat, dans la présence d'une spiritualité évangélique, dans un sens positif. Et là, c'est pas, je redis encore, il ne faut pas calculer ici en question de nombre, mais plutôt en question d'influence liée à votre identité propre. Je pense de la même manière, dans le CNEF, vous pourriez apporter une certaine ouverture. Le CNEF a les défauts de sa jeunesse et de l'arrivée massive d'unions d'églises qui n'ont jamais collaboré avec personne. Donc je parle ici par exemple des assemblées de Dieu, elles ne sont pas les seules. Hein. La difficulté, c'est que tout d'un coup, ils ont ouvert une porte et ça fait un terrible courant d'air. Et ils ont un peu du mal à tenir les portes et les fenêtres fermées et ça remue. Hein. Mais pour eux, par exemple, l'idée de dialoguer avec des gens, des réformés ou des catholiques pires, ça reste pour l'instant... inimaginable. Malheureusement. Donc, plus on sera nombreux à avoir une position, je dirais, modérée, ouverte, plus on aidera à une position centrale du monde évangélique et non pas alors j'ai pas envie de dire droite ou gauche, mais un peu de côté. Vous voyez ce que je veux dire ?
Le micro fait.
Ah pardon, tiens.
Non, c'est bon. Non, tiens, c'est ça. Ouais, ça va plus.
Voilà, merci pour ces éléments déjà. Ces deux premières questions étaient peut-être un peu orientées vers les chances et les choses possibles. Tout n'est pas forcément aussi rose que ça. Je crois qu'on fait tous l'expérience qu'il n'y a rien de pire quand quelqu'un pense qu'on a dit quelque chose qu'on n'a pas dit, ou alors qu'on a dit sans s'en rendre compte et que c'est interprété d'une manière qui nous déplaît. Une question qu'on se pose souvent par rapport à le fait d'appartenir à une instance, que ce soit le CNEF ou la FPF, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas d'accord avec une décision qui est prise, de quelque ordre qu'elle soit, hein, que ce soit une prise de parole publique, une décision qui touche à une question d'éthique ou théologique. Comment tu as pu, Étienne, dans ton expérience, gérer ces situations, de peut-être même parfois défendre, je ne sais pas, des positions avec lesquelles tu n'étais pas d'accord ou pas tout à fait d'accord. mais de devoir quand même se tenir derrière une décision prise par une instance supra-ecclésiale, si on peut dire ça comme ça. Quels sont les recours possibles qu'on a dans un cas comme ça?
Bon, plusieurs éléments. Le premier, avant que je devienne secrétaire général, j'ai un souvenir assez précis de la commission d'éthique de la Fédération protestante dirigée par le professeur Olivier Abel, avait sorti un texte sur l'homosexualité qui est, je pense, c'est dans les années 96-17, quelque chose comme ça, hein, dont la conclusion était un peu une pirouette et c'était pas très satisfaisant. Ce qu'ont fait à la fois l'Union des Églises Libres, dont le président à l'époque était Claude Batty, et la Fédération Baptiste, c'est de, en interne, publier une note commentant cette position. En gros, pour s'en distancer. Pardon ? Non, en interne de l'Union des Églises Libres et de la Fédération Baptiste, une note signalant en gros notre distance par rapport à la position prise. Hein? Parce qu'il était à peu près clair que si on laissait la déclaration circuler dans nos églises, on mettait le feu et qu'elle ne faisait pas avancer quoi que ce soit. La deuxième chose, donc ça moi je l'ai simplement observé comme pasteur et j'ai trouvé que c'était plutôt habilement géré. L'ennui, c'est que ça voulait dire en pratique que, et c'était un peu la difficulté à l'époque, qu'en gros, celui qui donnait le ton dans les prises de position éthique, c'était Olivier Abel, dans la commission d'éthique, et c'est pas la voie médiane hein, du protestantisme. Il a des positions qui sont suivies par beaucoup, mais qui sont pas au milieu de la Fédération protestante. Deuxième chose, quand je suis arrivé à la Fédération protestante, j'ai milité pour que les évangéliques de la Fédération protestante arrêtent d'être des râleurs. Parce que nous étions, en gros, en train toujours de dire « Oui, tu comprends, la Fédération protestante... » On était dedans, hein. « Oui, mais ils font ceci, oui, mais ils font cela. » Sauf que, quand les textes arrivaient, nous n'avions pas participé au débat. Non pas qu'on ne nous avait pas donné la place, mais on ne l'avait pas prise. Alors moi, je disais aux collègues « Mais vous êtes bien gentils. » Vous rouspétez quand le texte arrive sur la table du conseil et qu'il est adopté, mais vous rouspétez une fois que le train est passé. Si nous voulons être crédibles, nous devons être présents dans les discussions et faire entendre notre voix dans les discussions. Alors là seulement, éventuellement, on pourra dire notre avis n'a pas été entendu. Mais tant qu'il n'a pas été donné, on peut toujours rouspéter. Ça ne sert à rien. Il y a eu un deuxième domaine où j'ai eu moins de succès. Là, ça a marché, mais le deuxième domaine, c'est la finance. Parce que les évangéliques veulent beaucoup, mais ils donnent peu. Alors, c'est vrai, ils ont d'autres contraintes. Par rapport aux églises luthériennes réformées, ils ont tout leur parc immobilier à bâtir et entretenir. Là où les luthériens réformés d'Alsace et de France de l'intérieur ont des bâtiments qui appartiennent aux mairies. Et donc, c'est vrai que ça fait une différence qui n'est pas négligeable. Alors, en ce qui concerne les prises de position, nous avons donc milité, et celui à côté de Louis Schweitzer, qui était déjà relativement présent, mais assez isolé, nous avons poussé la présence de Luc Oleknovitch, pasteur des Églises Libres. Du coup, ils ont été beaucoup plus présents dans ces débats-là, et je dois dire que quand nous avons été présents, je dois rendre ce témoignage que les textes ont été le reflet des positions différentes, mais aussi des positions évangéliques. Donc il n'y avait pas une volonté a priori de mettre les évangéliques de côté. Il fallait simplement qu'ils prennent le temps du dialogue, de la contestation éventuellement, mais dans les cercles prévus pour. Alors ça peut donner quand même une difficulté, c'est que ça fait des textes qui sont souvent complexes, et à la fin, vous avez plusieurs positions concurrentes qui sont proposées. Mais c'est la réalité du protestantisme. C'est ainsi. Du côté du CNEF, alors je suis mal placé pour dire quels sont les recours contre les instances. pas sûr d'être d'une grande objectivité. J'aimerais juste préciser que... J'aimerais quand même préciser deux choses. La première, c'est que je trouve que nos églises, d'une manière générale, ne réfléchissent pas assez à l'éthique. Nous réagissons, mais nous ne réfléchissons pas. Et je parle pas là de quelques spécialistes. Je parle d'enseignement dans les communautés, où on ose affronter les questions. Parce que vous savez, à ne pas les affronter, d'autres parlent à notre place. Faut pas croire que les membres, ils attendent après nous pour savoir si l'euthanasie, le mariage pour tous, etc., doit se pratiquer ou non. Ils avancent, parce que la vie les fait avancer. Et si on n'ose pas en parler en assemblée, c'est d'autres qui tiennent le crachoir. Et je trouve que là, il y a un manque assez notable dans nos églises. La dernière chose que je voudrais dire, et je ne pense pas pouvoir en dire plus sur le CNEF, c'est qu'aucune décision ou texte ne s'impose en soi. Nous ne sommes pas une organisation de type épiscopal. Je ne suis pas le pape des évangéliques. Ma parole n'est que relative. Et je dirais, c'est même le jeu protestant habituel, de dire le président de la Fédération protestante, il a dit ça, mais nous, on n'est pas d'accord. C'est à la fois notre force et, pour certains de nos interlocuteurs, notre faiblesse. Les catholiques, de temps en temps, se plaisent à nous rappeler que chez nous, c'est un peu la cacophonie. Ceci étant, il faut pas trop se laisser impressionner. Derrière la voix d'un seul, il y a parfois beaucoup de bruit aussi. Voilà, je pense que je ne peux pas dire beaucoup plus là, sur ce sujet. Sauf si vous voulez préciser, me faire préciser des choses.
Didier ?
Parce qu'il y a une réaction directe.
Je voudrais réagir à ce que tu viens de dire là.
Oui.
Dans la présentation qui nous a été faite du CNEF au groupe de travail.
Peut-être attendre le micro pour que tout le monde entende.
Dans la présentation qui nous a été faite du CNEF, la dernière réunion du groupe de travail, donc par Étienne Gros-Renaud, je trouve que les Étienne sont nombreux chez vous, il a été question du premier texte à portée théologique sur la théologie de la prospérité. J'avoue de ne pas avoir lu, mais alors, en fonction de ce que tu viens de dire, quelle est la valeur de ce texte?
Alors, tu fais bien de me mentionner ça parce que c'est une chose qui m'était sortie de l'esprit. Oui, nous avons mis en place un comité théologique qui est composé des représentants des écoles, c'est-à-dire Fac de Vaud, Fac d'Aix, Institut biblique de Nogent, puis complété par des théologiens de sensibilité qui ne seraient pas représentés dans ces écoles. Il y a 7 ou 8 personnes. Le premier travail que nous leur avons demandé, et je suis à l'origine de cette demande, c'est un travail de réflexion sur la théologie de la prospérité. Je ne sais pas si vous êtes conscient dans vos assemblées de ce phénomène qui est de plus en plus notoire en région parisienne, dans les églises, surtout africaines, de prédicateurs qui surfent sur une annonce de l'évangile triomphante pour s'en mettre plein les poches. Excusez-moi d'être aussi direct. Qui le font avec des discours très spirituels, mais qui, au fond, vous annoncent le succès et pas Jésus-Christ. Je me souviens très bien, dans ma boîte aux lettres, avoir reçu un tract d'invitation. J'étais à Massy, c'est-à-dire, je vous laisse imaginer, 20 km au sud de Paris, pour aller dans une église au nord de Paris, c'est-à-dire à 60 km, qui s'appelle Charisma, mais c'est une énorme église. Dans le tract, vous aviez deux choses, la tête du prédicateur et le succès. Le succès, c'est tout, le succès. Jésus, je l'ai lu nulle part sur ce tract. C'est une église qui draine 8000 personnes. Mais ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est un phénomène qui, au Brésil, par exemple, et en Afrique, prend une ampleur phénoménale, avec des têtes d'affiches. Connus, dont on lit parfois les livres un peu trop facilement, à mon goût. Nous avons voulu nous positionner parce que certaines de ces églises frappent à la porte du CNEF et nous disent nous voudrions devenir membres. J'ai dit, au comité représentatif, il faut que nous nous positionnons sur la théologie de la prospérité et non pas que nous répondions au cas par cas aux gens vous n'êtes pas recommandable, vous n'êtes pas recommandable. Je voulais qu'on ait un texte, qu'on puisse dire écoutez, lisez ça. Si ça vous trouble, c'est que probablement vous n'avez pas de place chez nous. Sinon, on peut toujours discuter. Et donc, c'est un texte qui expose la théologie de la prospérité, qui montre quelles sont les erreurs sur le plan biblique et qui avertit sur les dangers. Ce qu'il faut savoir, je termine là-dessus, c'est que la théologie de la prospérité, malheureusement, a du succès auprès des plus pauvres. Parce qu'elle leur promet monts et merveilles. Et donc, je n'hésite pas à parler d'escroquerie spirituelle. Parce que la prospérité, c'est celle des prédicateurs. Ce n'est pas celle des auditeurs. Et donc là, il y a des choses tout à fait préoccupantes. Alors, c'est un débat. Nous avons réussi à le mener et avoir une unanimité. Mais ça chatouille une partie du public charismatique. Hein. Même au CNEF. Et il faut leur rappeler que on ne peut pas dire n'importe quoi au nom de l'Évangile. Même si on croit au miracle.
Merci Didier pour la question. Je pense que ça a clarifié aussi certaines choses dans nos têtes. Donc nous arrivons à la quatrième question qu'on voulait poser à Étienne, qui est aussi une question un peu de fond, peut-être une question un peu basique. Comment peut-on être ensemble quand il y a des divergences théologiques sérieuses, par exemple sur des questions comme le baptême ou la scène, etc. Comment est-ce que c'est possible et comment est-ce qu'on peut le vivre de manière positive dans de telles instances comme le CNEF ou la FPF.
Alors, je reviendrai volontiers à mon image qui a ses limites, hein, des cercles concentriques. Ça dépend de ce que vous attendez de votre interlocuteur. Par exemple, en ce qui me concerne, je n'ai jamais pensé que dans la Fédération protestante de France, vu sa composition, je devais être d'accord sur tout avec tout le monde. Parce que sinon, c'est peine perdue. Y a trop de divergences pour qu'on arrive à s'accorder sur tout. À partir de ce moment-là, je me sens relativement libre, parce que nous avons quand même un héritage commun, une histoire commune, de collaborer sur un certain nombre de points avec des gens, y compris dont la théologie me paraît libérale. Mais évidemment, j'irai probablement pas annoncer l'évangile dans la rue avec eux. Je suis sûr qu'ils viendraient pas d'ailleurs. Pour faire court, je suis peut-être un peu sévère, mais en gros. Hein. Néanmoins, j'ai appris une chose, et c'est ce qui m'a fait changer d'avis dans mon histoire personnelle, et j'aimerais quand même vous le raconter. J'ai été formé à l'Institut biblique Emmaüs. Donc une idée assez précise de ce qu'est un évangélique. Et assez critique à l'égard de toute théologie libérale. Et je suis parti au Cameroun. Dans ce cadre-là, je suis parti avec ce qu'on appelle le DEFA, Service protestant de mission. Ce service protestant de mission, qui était le relais obligatoire de la coopération, ne comporte évidemment pas que des évangéliques, même s'il y en a parmi eux. Et donc, j'ai entendu toutes sortes de choses. Mais j'ai découvert une chose. C'est qu'on pouvait avoir une théologie pas très évangélique et aimer le Seigneur. Et pour moi, ça paraissait pas possible. Mais j'ai découvert que des gens aimaient profondément le Seigneur, ils avaient une piété, si vous voulez, et que je ne pouvais pas, simplement parce que je n'étais pas d'accord théologiquement avec eux, nier leur volonté d'aimer le Seigneur, leur piété, leur recherche de Dieu, et que je devais y faire droit. Ça ne m'empêche pas de continuer à discuter théologique. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça m'a aidé à aborder les choses de façon différente. Par exemple, sur le baptême, nous ne sommes pas d'accord au sein de la FPF. C'est l'objet de discussions parfois âpres. Nous sommes d'accord sur la scène. Nous sommes mis d'accord puisque nous avons dit que nous nous accueillons mutuellement à la scène. Ça ne pose pas problème pour moi parce que j'ai la pratique de la table ouverte. Ça pose un problème pour, je pense, nos amis baptistes de l'association qui ont une pratique plus restrictive de la table, de la scène. Je ne sais pas quelle est votre pratique, mais pour moi, si quelqu'un confesse le Seigneur, je l'invite à partager le repas du Seigneur. Quant au reste, j'estime que ça lui appartient. Là où, de mon point de vue, mais je ne suis pas dans une position générale des baptistes, hein, c'est de la Fédération baptiste, c'est variable, de mon point de vue, les questions d'accueil à la scène peuvent ensuite être discriminées si la personne devient régulière à l'Église. Et où là, si je m'aperçois qu'elle n'a pas un comportement qui est cohérent avec l'Évangile, je me sens dans l'obligation en tant que pasteur d'aller lui parler, mais en privé, non pas de la faire asseoir publiquement. Et lui dire, écoute mon frère ou ma sœur, tu prends la scène signe de communion et en même temps tu vis d'une façon qui trahit cette appartenance. Est-ce qu'il n'y a pas un problème ? Voilà, ça, c'est ma pratique. Hein. Donc, si vous voulez, je ne me sens pas. Si un réformé, un luthérien, un catholique qui est présent dans la salle veut partager le repas du Seigneur de ma communauté, je ne vois pas de problème dans la mesure où je lui ai annoncé qu'il faut qu'il reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. Avec le baptême, c'est une autre affaire. Nous sommes foncièrement en désaccord. Luthériens, réformés et baptistes. Alors, je n'ai pas trouvé de solution, eux non plus. J'observe que le fait d'être dans une société sécularisée nous a néanmoins rapprochés. Parce que je trouve des pasteurs réformés qui se préoccupent que le baptême et la confirmation aient du sens et ne soient plus de simples gestes sociologiques. Et je suis sensible à ça. Et d'ailleurs, dans ma pratique pastorale, c'est le plus compliqué, c'est d'avoir en face de moi un réformé qui a eu une démarche de foi, qui s'est fait baptiser enfant, et dont la confirmation était une vraie confirmation. Parce que là, je suis quand même face à une démarche sérieuse. C'est pas celle que je préconise, mais elle est sérieuse. Quand il s'agit d'un baptême d'enfant qui n'a de sens que pour la famille, je dirais que c'est un peu moins compliqué. De lui parler. Et oui, on a cette difficulté avec des. On peut avoir cette difficulté avec des baptisés adultes. Encore que, je dirais que si ils l'ont fait en toute conscience, je ne vois pas pourquoi je les rebaptiserais. Mais vous savez, c'est un large débat. Hein. Et même chez les baptistes. Hein. Je vous donne un exemple d'une chose qui nous a préoccupé entre baptistes et luthériens il n'y a pas longtemps. Dans le pays de Montbéliard, il y a le fils d'une famille luthérienne, fils de 30 ou 35 ans, hein, par un gamin, qui est venu à l'église baptiste. Il a demandé le baptême à l'église baptiste. L'église luthérienne nous en a fait une montagne. Il nous a écrit que c'était une catastrophe, un scandale, etc., etc. Et notre réponse a été de leur dire, écoutez, ça fait 500 ans que ça dure, on n'a rien fait de nouveau. En plus, il est majeur et vacciné. La liberté de conscience, est-ce que ça veut dire encore quelque chose? Voilà. C'était pas la façon la plus paisible d'aborder les choses, mais c'était au moins une façon de dire, écoutez, chacun chez soi. Quand même. Moi, je dirais que dans ce domaine, alors je vais venir au CNEF, parce que ça ne veut pas dire que dans le CNEF, tout est simple. Hein, mais je finis là-dessus. Je crois que dans ce domaine, il faut que ceux qui vous représentent dans ce genre d'instance n'aient pas peur d'affirmer leurs convictions. Paisiblement, mais fermement. Vous ne pouvez pas savoir comme le dialogue théologique un peu exigeant peut être extrêmement stimulant. J'ai assisté dans des dialogues théologiques entre catholiques et baptistes à des échanges entre Henri Blocher et Bernard Cesse-Boué, qui sont deux grands théologiens, à Louis Schweitzer avec ce même genre de personnes, et personne ne sait de rien. Mais c'est très intéressant, on apprend beaucoup. Et on se rend compte que même en théologie, on part quand même, malgré tout, avec des a priori, qu'on est obligé de revoir quand on pousse un peu le bouchon. Alors je viens au CNEF. Ne croyez pas qu'au CNEF, il n'y ait pas de divergence théologique. Certes, d'une certaine manière, sur le plan, je dirais, de la confession christologique, etc., on est d'accord. Mais le baptême n'est pas forcément conçu de la même manière chez tous. Nous avons des pédobaptistes. L'Église réformée évangélique est membre du CNEF. Elle pratique le baptême des enfants. Donc, cette question-là n'est pas sans objet, même au sein du monde évangélique. La question du baptême dans cet esprit, évidemment, et de la pratique des dons spirituels au cours des cultes reste une vraie question. Aujourd'hui, la réconciliation prime, mais on n'a pas résolu, on n'a pas vraiment discuté sur ces questions-là. Il reste encore un certain nombre de... Je pense qu'on peut vivre ensemble en n'étant pas d'accord, je le sais, à la Fédération Baptiste, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Et ça ne veut pas dire qu'il faut s'économiser la discussion. Elles sont encore à faire. Donc, ma réponse est, on peut faire un certain nombre de choses ensemble avec des divergences théologiques, ça dépend évidemment du niveau de ces divergences, et la meilleure chose à faire, c'est d'être toujours paisiblement, mais fermement, soi-même, dans les dialogues. Je pense que c'est la meilleure chose à faire pour vous et pour celui qui est en face de vous.
Excuse-moi. Merci. Une dernière question avant de vous laisser aussi la possibilité de poser vos propres questions. Comme Mennonite, on est parfois très attaché à notre identité. Même si on faisait un sondage sur certaines valeurs, on aurait peut-être des surprises quant à la définition de notre identité. Je ne suis pas sûr qu'on serait forcément tous d'accord sur la question. Enfin, toujours est-il, on pense qu'on a une identité. Et il y a quelque part la crainte que lorsqu'on appartient à une fédération ou une instance supradénominationnelle, on pourrait perdre notre identité et, entre guillemets, vendre notre âme au diable. Alors, crois-tu qu'il y a un risque ? Je ne précise pas si le diable est côté CNEF ou FPL. Mais penses-tu qu'il y a un risque de vendre son âme à... Trois petits points.
Si vous ne savez pas qui vous êtes, je récuse l'idée de vendre son âme au diable. Mais ceci étant, si vous ne savez pas qui vous êtes, oui, il y a un risque. Évidemment. Si vous savez qui vous êtes, il n'y a pas de risque. Après, il faut que vous mettiez les moyens pour que ceux qui vous représentent puissent être de bons porte-parole de vos valeurs, de vos particularités, de ce qui vous semble important, qui peut être parfois partagé avec les autres, qui peut être parfois différent de ce que les autres, ce à quoi les autres sont attachés. Moi, je pense que ce problème de crainte vis-à-vis des instances supradénominationnelles est fausse pour deux raisons. D'abord, parce que ni le CNEF ni la FPF ne sont des super unions d'église. Ce ne sont pas des unions d'union. Ce sont des rassemblements d'union et d'œuvre. Et vous avez entendu que dans l'un et l'autre cas, les unions restent maîtresses de leur confession de foi, de leur spiritualité, des décisions chez elles. J'ai eu des débats à la Fédération protestante. Dans des moments d'emportement, les chers amis luthériens nous disaient... Oui, il faudrait qu'on dise que ceux qui n'acceptent pas de femmes pasteurs n'ont pas leur place à la FPF. J'aurais dit stop. On a dit très clairement que cette affaire, c'était une affaire qui concernait chaque union d'église et que la FPF n'avait pas à se prononcer sur cette question. Et le cher ami a remballé sa proposition. Et puis c'est tout. Donc on est de temps en temps devant quelques excitations du moment. C'est pas très grave, on peut en avoir aussi. Hein. La deuxième chose, c'est que si vous allez sur ce chemin-là, de la crainte de ce qui est au-dessus de l'église locale, c'est pas la peine d'être en union. Ça n'a pas de sens. Ceux qui vont jusqu'au bout dans ce domaine-là, ils sont indépendants. Il y en a, ils le sont par conviction. Hein. Je ne partage pas cette conviction. Mais ils le sont. Là où ensuite je suis plus critique, c'est quand ils viennent frapper à la porte d'une union pour obtenir les avantages de l'union tout en restant indépendants. Je le sais parce qu'en tant que Fédération Baptiste, nous avons aidé des églises indépendantes, des pasteurs indépendants, à avoir le droit d'être aumôniers dans les armées. Ou à pouvoir avoir des visas pour leurs missionnaires. Et au bout d'un moment, vous avez envie de leur dire, mais écoute, mon gars, t'es bien gentil avec tes histoires de... On ne veut pas se compromettre en attendant. Quand t'as besoin d'un truc, tu te compromets. Hein. Avec nous, au moins. Voilà, je crois que là, il y a... À mon avis, cette histoire de peur de ce qui est supradénominationnel, c'est beaucoup plus de l'ordre de la... du préjugé que de la réflexion biblique et théologique sérieuse. Il me semble que dans les Écritures, il y a l'existence au-delà de la seule petite église locale, d'un certain nombre de réalités supralocales qui sont utiles. Je vous donne un exemple simple que vous vivez, je suis sûr, en tant qu'union. Quelle église est capable seule de décider que, alors je sais bien que vous n'avez pas une tradition très longue du pastorat, mais de décider si le pasteur auquel elle fait appel va être le bon pasteur. Dans notre fédération, Baptiste, nous sommes congrégationalistes, chacun fait comme il veut. Néanmoins, nous nous sommes donné des structures communes, une commission des ministères. Nous avons des églises qui nous disent régulièrement, parce qu'ils trouvent que la commission des ministères ne va pas assez vite, « Vous ne trouvez pas de pasteur, vous allez voir, on va en trouver un. » Dans mon expérience, 9 fois sur 10, ça a été une catastrophe. Parce que l'église s'est précipitée, elle avait absolument besoin d'un pasteur, elle n'a voulu écouter ni la chair ni le sang, mais en l'occurrence, elle a eu tort. Et la commission des ministères est l'occasion de réunir l'expérience de plusieurs personnes, laïcs et pasteurs, qui peuvent apprécier, qui peuvent analyser une situation avec un petit peu plus de recul. En plus, ils ne sont pas sous la pression du moment. Je peux vous donner un exemple, et ça devrait vous toucher en tant qu'Alsacien, d'un de ces grands échecs qui touche la région de Strasbourg, c'est le choix du pasteur de la Méno. Ceux qui sont strasbourgeois savent les dégâts que ça fait. Eh bien, l'Église nous a fait exactement ça. Il y a un autre domaine dans lequel on a besoin des autres. Construire une Église. Vous faites ça combien de fois dans l'histoire d'une communauté ? Et je peux vous assurer que si des gens qui ont déjà fait ça peuvent vous donner quelques conseils, c'est pas un mal. Parce qu'on est très peu à avoir d'expérience. Je vous souhaite pas d'ailleurs d'en avoir beaucoup plus que 2. Hein ? Parce que c'est épuisant ce genre de choses. Voilà, on a besoin les uns des autres. C'est une évidence. Donc on ne vend pas son âme au diable.
J'avais pas trop de doutes sur la question, mais je trouvais la meilleure manière de la formuler. Voilà, merci beaucoup Étienne pour déjà tous ces éléments.
Le problème quand on choisit des questions, c'est qu'on choisit...